Se met au piano, comme l'énergie change. Merci Alain d'être là.
Ben écoute, je trouve ça extraordinaire que.
On était tout excités que le climat, tu comprends?
Non, vous mettiez cette pièce-là parce que c'est une des pièces peut-être les plus
prélude
chorale et fugue voilà. De César Franck. C'est une des plus sombres, si tu veux, du disque, mais en même temps pour moi c'est la plus belle. C'est une pièce qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Étudiant à Paris, j'étais à côté de Saint-Augustin, qui était cette belle église qui est très sombre. Et on sait que César Franck avait ses montées vers le ciel et ses descentes vers l'enfer. Mmh.
Alors, choix de Benoît Leroux ici, mon technicien.
Ben, je dois dire à Benoît Leroux qu'il m'impressionne parce que c'est sur le disque donc qui est mon premier disque chez Warner Classic. C'est la pièce finalement et bon, je te dirais très modestement, j'aime pas ça, mais que le disque a obtenu déjà 2 prix en Europe comme meilleure sortie. C'est un disque qui fait des ravages. Et wow. Moi, j'y croyais pas beaucoup. Parce que c'était un répertoire quand même que je ne joue pas souvent. C'est un répertoire qui est un peu plus... c'est un répertoire qui est pas plus intellectuel, mais plus délicat.
Ciblé.
Ouais. Oui, plus ciblé. Et je me retrouve avec des ventes qui cartonnent et surtout des prix. Angleterre, France.
Mais t'arrêtes pas, Alain. On est ravis de t'avoir ce matin à l'émission parce que, en fait, pas de vacances pour le pianiste.
Non, tu vas faire 2 ans partout. Et là, ça fait un peu long. Là. Ça fait
un petit peu long. Partout. Tu fais, bon, là, tu vas faire un spectacle au CNA, au Centre national des arts à Ottawa, mais sinon, c'est Zurich, c'est Paris, tu fais toute l'Europe.
Oui.
Comment t'expliques que cette carrière continue de s'emballer comme ça?
Mais tu sais, moi, ça a toujours été long. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu une carrière feu d'artifice. J'ai travaillé le
plus... C'est pas l'impression qu'on en a du tout. Là.
Non, j'ai travaillé sereinement, j'ai travaillé honnêtement. J'ai fait beaucoup d'erreurs, des erreurs qui ont toujours été liées parce que je crois à l'amour, je crois à l'amitié, je crois à la fidélité, je crois aux belles valeurs. Je sais qu'aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement les valeurs les plus à la mode.
Erreur, par exemple? Tu parles de quoi?
Ben, des choix de cœur. C'est-à-dire, tout d'un coup... tu es dans une grande agence, une des plus grandes au monde, et que ton agent a des problèmes dans cette agence, et il te dit « je quitte l'agence pour faire ma propre agence ». Et moi, j'avais tout à gagner à rester dans la grosse agence, et j'ai suivi par cœur cette agence.
Et un fidèle.
Et cette agence
fidèle.
A fait faillite.
Ouais, ça arrive.
Et il m'a volé 20 000 piastres. Mais c'est pas grave. C'est ce qui compte, je pense, dans une vie, parce que le temps passe vite. Et que bien des choses peuvent arriver. Ce qui compte, c'est de faire la promotion des valeurs. On est arrivé à cette étape dans l'humanité où il faut parler de belles valeurs, de valeurs qui sont celles de l'amour, de la fidélité. Et je sais que c'est pas la mode. Je le vois bien dans les séries qu'on regarde, parce que là, depuis quelques années, je me suis enfin offert une télévision. Et quand tu fais le tour des séries qui sortent sur Netflix, les valeurs, la promotion des valeurs est une, à mon avis, est assez catastrophique. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet.
On parlait d'environnement juste avant toi, puis on parlait des gens qui voyagent en avion. Puis moi, je t'avoue, chaque fois que je prends l'avion, puis c'est vrai que quand tu regardes, ça me préoccupe beaucoup. Parce que dès que tu voyages un peu, mais tu sais, il y a des gens qui m'écrivent sur les croisières. Il paraît que faire des croisières, c'est encore plus polluant. Toi qui voyages tout le temps comme ça, est-ce que ça te préoccupe l'environnement ou ça te parle moins?
Je pense que tout est préoccupant. Je pense que l'environnement est une cause réelle. Quand on parle de bateaux, il y a des choses que les gens ne savent pas. Beaucoup de yachts privés qui sont extrêmement beaux sont encore des gens qui balancent leurs ordures dans la mer. Mais je te dirais, je pense qu'il faut aussi penser à des choses essentielles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire qu'on fait des pistes cyclables, on les rend plus grandes et on les fait de plus en plus importantes. Et en même temps, on réalise que les pistes cyclables, la résultante, c'est que le trafic est encore plus bouchonné et que finalement, une voiture qui est en arrêt devant un feu rouge fait 10 fois plus de trafic. Et que les pistes cyclables à Montréal, par notre belle mairesse, soient tellement promues, Moi, je pense qu'il faut aussi penser qu'on a 4 à 5 mois d'hiver et maintenant, on est rendu à presque 9 mois d'hiver. Il y a des choses un peu bizarres.
Là, tu exagères, par exemple. Pas 9 mois.
Non, mais je veux dire...
Non, j'ai encore calculé dernièrement pour me rassurer. Oui. J'en étais à 6. Oui. Alors, on regarde ça à 6.
C'est que je pense qu'il y a beaucoup de...
Mais t'as raison sur écoute.
Il y a beaucoup d'hystérie ouais. là-dessus. Moi, ouais. je suis souvent à Paris en ce moment. Et,
As-tu essayé les trottinettes?
Non, mais je sais que la mairesse, les gens veulent l'arrêter au plus sacrant parce qu'elle a mis tellement de pistes cyclables. Paris,
elles sont très larges.
Et là, la pollution à Paris a 10 fois plus augmenté.
Ouais, c'est quelque
Alors,
chose.
Je pense qu'il faut rester raisonnable, mais enfin, on n'est pas dans une société qui est raisonnable aujourd'hui, ouais. C'est ça, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je devrais parler d'autre chose.
Non, mais tu veux parler de quoi? Moi, je pense que c'est important de parler
mais
de
ça. Ça me préoccupe, tout me préoccupe.
Moi, je te demande, qu'est-ce qui te préoccupe? Donc,
tout me préoccupe, tout. Les élections en Europe me préoccupent, la montée du populisme que je prédis depuis 10 ans. Tout le monde me considérait comme un fou et je leur dis, vous savez... Le populisme, avec une baisse de l'éducation, avec une baisse de la présence dans nos écoles, d'une forte présence qui apprenne aux jeunes des valeurs, des vraies valeurs, ça va amener le même populisme qu'on a vu en apparence dans les années 1928, 1930,
ouais.
etc.
Mais tu sais, on dit souvent populiste, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation et tout, mais moi je fais attention avec cette lecture-là parce que c'est drôle, toi, la semaine dernière, avec ma fille, on faisait un cours d'éducation à Versailles. On va à Versailles, on explique un peu l'histoire de France, la Révolution, 1789. Et ma fille, Laura, me demande pourquoi les citoyens se sont-ils révoltés. Et c'est drôle parce qu'en même temps, il y avait plein de manifs de gilets jaunes. Puis je trouvais qu'il y avait une certaine analogie, pas au même degré. Mais d'une certaine façon, c'est la révolution, c'est la révolte de la classe moyenne qui dit, classe moyenne à base, tu sais, qui travaille au SMIC, c'est-à-dire au salaire minimum, qui a de la misère à arriver. Puis chez nous, ici, on a un peu ce discours-là qui monte aussi. C'est-à-dire, regarde, j'ai de la misère à arriver, le gouvernement me pompe tout l'argent, tout le cash que je fais. Je suis obligée d'en donner la moitié, ou en tout cas 40 % à un gouvernement qui n'est même pas capable de s'occuper de moi quand je suis malade.
Ça, c'est sûr.
Tu comprends?
Les têtes
sont tombées à l'époque.
La Révolution française, c'était la taxe, une dernière taxe sur la farine.
Voilà.
Qui a été la goutte. Et quand je parle de ça, c'est...
Fait que je trouve qu'on n'avance pas, tu comprends? Tant que ça.
On n'avance pas. On est dans une période qui sera complexe, très complexe. Et c'est pour ça que, bon, ben, l'espoir, c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est de croire en l'amour. L'espoir, c'est de voir des jeunes à qui tu peux dire ce que j'ai dit hier quand j'ai fait la très courte conférence du concours musical international de Montréal.
Ouais, puis on en parle après.
En disant aux jeunes, écoutez, c'est dur ce que vous allez faire comme concours. C'est un des plus importants concours au monde, mais ce que vous faites, c'est que vous êtes des bulles d'espoir. Alors, ils me regardent, bien sûr, sceptiques, parce que ça... Tu sais, comme je t'ai dit, si tu arrives dans un salon à Paris et que tu dis, oui, je vous présente ma femme, mais vous savez, je suis tombé amoureux d'Arantan Laveur avec qui j'ai des relations depuis 4 ans et j'ai fait en sorte qu'un ours tombe enceinte, tu deviens un personnage intéressant. Mais si tu dis dans le même salon, je suis marié avec ma Jojo depuis 36 ans, je l'aime et c'est le soleil de ma vie, t'es un
plate
être...
un peu, c'est ça?
Ben, t'es bien plate. Mais moi... Je sais en même temps que les jeunes ont besoin de belles histoires. Mmh. Le monde se meurt de belles histoires. Et c'est pour ça que souvent je dis, Hollywood devrait faire très attention. Mmh. Leurs scénarios sont actuellement basés sur des choses, sur des valeurs qui sont c'est complexe.
Mais regarde les films qui sont le plus à la mode, c'est les films de super-héros. Et qu'est-ce qui véhicule les super-héros? Ils véhiculent les valeurs dont tu parles. C'est la fraternité, c'est l'entraide, la solidarité, tous alliés contre le méchant. Puis ils ont des dons, des pouvoirs. Moi, je pense que, justement,
il y a un changement. Moi, les films,
j'ai l'impression que.
J'en ai pas vu très bon bout.
Non, mais c'est ça. Il faudrait peut-être que tu te rafraîchisses.
Je suis resté à Bambi.
Ouais. On va s'arrêter ici. On va revenir avec notre ami Alain Lefebvre. On va parler, oui, de cette relève musicale aussi, parce que t'es devenu maintenant une espèce de modèle, presque un mécène.
Hey boy.
Pour tous ces jeunes-là qui suivent ton chemin. C'est pas évident de vouloir faire une carrière dans la musique classique aujourd'hui, justement à ces aires d'Internet puis de...
C'est
la musique formatée, c'est pas évident du tout.
C'est quelque chose de très difficile, surtout que finalement, les grandes maisons qui sont subventionnées par l'argent des contribuables ne font plus le travail qu'elle devrait faire. C'est-à-dire qu'on voit quand même en France que Radio France existe et que France Musique existe. Ouais. Chez nous, c'est en train de disparaître.
Ouais. Tout de suite après, Alain Lefebvre.
Thank you.
Arabesque numéro un.
Oui, et tu vois, cette arabesque, c'est bizarre, là, je vais devenir très technique et pointu. Je suis un des seuls qui la commence pendant trois mesures, sans pédale, ce que Debussy voulait.
Oh.
Alors, en Europe, les gens, beaucoup, ce qu'on appelle les spécialistes, ça a attiré leur attention. Et j'ai eu des critiques, enfin bon, c'est pas important.
Dithyrambique. Ouais.
Voilà, je te laisse le dire.
Ouais. Je disais tout à l'heure que tu étais aujourd'hui celui qui guidait la voix des plus jeunes. On sait, parce qu'on s'en est souvent parlé, toi et moi ici, tu l'as dit souvent, à quel point pour toi la jeunesse, c'était important. Toi-même, tu as été aidé quand tu étais plus jeune, puis tu veux rendre. Et c'est pour ça que tu as accepté d'être patron d'honneur du Concours musical international de Montréal. Ce qu'on ne savait pas, c'est que, peut-être qu'on le savait, mais il faut le rappeler, c'est le seul concours international en Amérique du Nord à être tenu chaque année et à présenter des disciplines piano, voix,
ouais,
violon.
Oui, c'est un concours extraordinaire. Moi, je ne suis pas, le plus grand fan des concours, surtout depuis que je vois aussi souvent ce qui se passe. Mais le Concours musical international de Montréal est un concours qui m'a... J'ai été membre du jury, ça fait trois ans, qui m'a terriblement impressionné par l'intégrité. L'intégrité, la manière dont ils ont instauré les choses. Et je ne vais pas élaborer là-dessus, mais enfin... Simplement, les membres du jury, un exemple très intéressant, pendant le temps du concours, n'ont pas le droit de mémérer entre eux pour dire « j'aime celui-ci, j'aime pas celui-ci ». C'est ils écoutent, ils notent, etc. Ce qui fait que c'est un concours extraordinaire cette semaine. C'est une grande célébration, surtout que la directrice générale, Christiane Leblanc, a eu l'idée d'instaurer ce qu'on appelle les mini-violonies. Ce soir, c'est la deuxième épreuve à la salle Bourgie, c'est absolument incroyable. J'ai écouté hier des jeunes.
De 10 ans,
6, 7 ans, 8 ans. Même il y en avait un qui avait 6 mois qui jouait du violon dans le berceau. C'est pas vrai, ça.
Arrête.
Mais tu sais, des jeunes qui font fondre les cheveux, là. Tu pleures, tu dis c'est beau. Et le concours donc officiel va commencer d'ici quelques jours. Il y a énormément de choses. Non, c'est un grand concours. C'est un événement qui, de toute façon, attire, je pense, l'attention et qui fait que Montréal est une ville pour qui les gens ont de plus en plus de respect. Je parle culturellement.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont représentés.
Des cônes oranges, là.
24 concurrents internationaux, une dizaine de pays qui sont représentés. Donc, ça amène aussi un certain tourisme musical, finalement.
Absolument. Ben oui, surtout qu'il est suivi, il est respecté. Et aussi, il est organisé de manière que ça soit, j'aime pas ce terme, je trouve que c'est un terme qui est... Mais que ça soit la fête, j'allais dire le festif, j'aime pas ça, la fête.
T'aimes pas le festif, toi?
Ben non, il y a des, tu sais, c'est comme bon matin, festif, tout ça me fatigue. Bon matin, c'est good morning.
On dit pas ça, bon matin.
Ah ben j'en entends, ben écoute, on dit ça à longueur de journée, chez nous, bon matin, et mon conjoint, c'est pas ma conjointe, c'est ma femme, c'est mon amour, mon conjoint, j'ai l'impression que je vois un joint de tuyaux, là. C'est des affaires qui me fatiguent.
Merci Alain Lefebvre, merci Alain.
Je t'aime Isabelle.
Bye.